Et ce matin, tout d'abord, je voulais vous offrir non pas un scandale, mais trois scandales. Alors, accrochez-vous parce que ce qui suit n'est pas vraiment simple. Le premier scandale a été déclenché par un businessman chrétien. Désolé, mais maintenant, ce genre de détail compte. Un businessman chrétien qui retweet un dessin de Mickey avec une barbe islamiste et de Minnie avec un tchador, dessin qui ferait bâiller mon fils de 4 ans. Ce businessman dirige la filiale d'Orange Télécom en Égypte et l'affaire devient un scandale national. À la faveur de ce scandale, des organisations égyptiennes s'aperçoivent qu'Orange a une filiale israélienne et appellent au boycott d'Orange. Second scandale, scandale dans le scandale. Stéphane Richard, PDG d'Orange, prononce une phrase malheureuse ou délibérée à ce stade. Impossible de trancher. Stéphane Richard a laissé croire qu'il voulait en finir avec sa filiale israélienne pour en finir avec le boycott égyptien qui commence à prendre des proportions inquiétantes. Du coup, des associations juives appellent au boycott d'Orange qui s'apprêterait à boycotter Israël. L'affaire prend des proportions galactiques, le gouvernement israélien demande des explications au gouvernement français, le Congrès américain s'émeut de ce thème et l'affaire fait évidemment la première page du New York Times. Troisième scandale, scandale dans le scandale du scandale. Des associations musulmanes, juives ou peut-être même laïques, oui parce qu'il reste, alors il reste encore 2-3 laïcs dans le monde, diffusent les cartes des pays terroristes, homophobes, dictatoriaux, pratiquant l'esclavage, dans lesquels Orange est présent. Et évidemment, c'est pas beau à voir, vu qu'Orange a des filiales, non pas seulement en Israël, mais aussi notamment en Birmanie, en Ouzbékistan, en Ouganda, en Iran, en République du Congo, j'en passe, et des pires. En somme, chacun a une bonne raison de boycotter Orange. C'est ça, la magie des multinationales. Alors, morale de l'histoire, eh bien, comme on dit au 21e siècle, un retweet peut donner un gros buzz qui finira en énorme crack. Une phrase que Montaigne traduisait en son temps avec ces mots « chier dans un panier pour se le mettre sur la tête ».
France Inter, service public, Guillaume Herner.
Et maintenant le dossier du jour, comment rater ses vacances, on en parle avec Nicolas Santolaria, journaliste au magazine GQ, qui vient de publier « Touriste, regarde où tu poses tes tongs » aux éditions Alary, avec toute une série de lieux où le touriste ne doit pas aller. Je dois dire que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, Nicolas, puisque vous interdisez aux touristes d'aller dans les vignobles du Médoc, d'aller à Menton, qui est une ville chère à mon enfance, dans le lac de Gérardmer, qui est cher à Olivier Bétard, notre réalisateur, puisqu'il y a passé toutes ses vacances, et également dans les atolls post-nucléaires de Mururoa, où de toute façon, personne n'ira parce que c'est trop loin et trop cher. Jean-Bernard Carrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de guide de voyage Lonely Planet, et vous allez nous expliquer à quoi servent encore les guides de voyage, si l'on veut rater ses vacances aujourd'hui, sont-ils véritablement utiles? Pascal Gros dit Gros, vous dessinez à Marianne, Charlie Hebdo, Cosette, et vous publiez avec Tinius, avec le regretté Tinius, comment rater ses vacances aux éditions Duchesne. On a été obligé de vous inviter parce que, vu le titre de cet album, vu que nous avions pris ce titre pour l'émission, on s'est dit que vous alliez nous faire un procès, alors on a préféré vous inviter par avance. Et puis enfin, Thomas Laurenceau, vous êtes rédacteur en chef du magazine 60 millions de consommateurs. Thomas Laurenceau, quelles sont les précautions à prendre si l'on veut rater ses vacances?
Oh ben c'est vraiment très facile de rater ses vacances. Il faut comprendre que ça commence bien avant les vacances et ça peut durer bien après. Donc ça commence au moment où vous allumez votre ordinateur et que vous allez, sans vérifier, choisir un voyage, une destination et ou bien un échange entre particuliers où là vous êtes moins bien protégé. Et puis ça va aller jusqu'à la fin, au moment où longtemps après votre retour en vacances, de vacances, quand vous recevrez des contraventions parce que vous avez mal circulé en Italie, ou vous recevrez vous n'arriverez pas à obtenir gain de cause parce que vous n'avez pas obtenu la prestation prévue. Donc c'est vraiment très très riche.
J'ai autour de moi une épidémie d'escroquerie à la location, des gens qui louent des appartements qui n'existent pas ou qui existent mais qui manifestement n'appartiennent pas à la personne qui a passé l'annonce, des arnaques sur Airbnb avec des changements inopinés de destination à la dernière minute, d'appartements de destination qui se soldent généralement par des découvertes désagréables. Êtes-vous saisi de plus en plus d'arnaques grâce ou à cause d'Internet?
C'est sûr que les échanges entre particuliers font qu'on est moins bien protégé. Alors, plus que Airbnb, on a vu beaucoup de choses sur les sites type Le Bon Coin qui sont encore moins bien contrôlés, avec des usurpations d'identité. Par exemple, des gens qui pirataient une petite annonce, qui louaient pour une destination donnée. Et ensuite, vous vous retrouviez à 25 ou 30 personnes à avoir loué la même semaine, la même villa. Donc, ça pose un petit problème, d'autant que le propriétaire n'était pas au courant. Sur Airbnb, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que des particuliers honnêtes, il y a aussi des professionnels.
Des particuliers malhonnêtes.
Et puis des professionnels. Hein. Nos confrères du temps à Genève avaient trouvé une dame comme ça qui avait 120, une dame suisse qui avait 120 appartements à Genève et dans les alentours. Là, on est vraiment dans la PME du tourisme. Et on a quelques témoignages sur Airbnb. Effectivement, les gens se payent surtout des frais hein, qui ne sont pas annoncés. Il faut bien jouer le jeu, donc il faut bien jouer le jeu, faire remonter les informations. C'est aussi comme ça qu'on va arriver à rééquilibrer les choses. Mais c'est vrai que plus ça augmente, eh bien évidemment, plus il y a de problèmes qui remontent. Mais vous savez, il y a aussi des problèmes avec les professionnels.
Eh bien, on va en parler tout de suite avec Jean-Bernard Carrier, puisque vous êtes un professionnel du guide de voyage, vous travaillez pour Lonely Planet.
Alors, la meilleure recette pour rater son voyage, c'est de partir sans guide de voyage, justement. Ça, c'est l'erreur majeure.
Vous dites ça parce que vous travaillez pour les guides de voyage.
Ben oui, mais j'ai de bonnes raisons de le faire et ça continue. Les guides de voyage ne sont pas obsolètes, contrairement à ce qu'on a pu croire. Et organiser un voyage uniquement avec des informations sur Internet, c'est le meilleur moyen d'aller à l'échec. Parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de cohérence. TripAdvisor, Airbnb, tous ces supports, même les forums de voyage, l'information n'est pas filtrée, elle n'est pas cohérente. C'est une gigantesque cacophonie. Alors, pour rater son voyage, c'est le meilleur moyen, c'est de se focaliser uniquement sur ce type d'informations-là et d'oublier de prendre un guide de voyage papier fait par une bonne maison d'édition.
Voilà. Nicolas Santolaria, vous publiez un livre, un guide de voyage un peu particulier, puisque vous invitez vos lecteurs à prendre garde à un certain nombre de destinations. Alors dites-nous, par exemple, pourquoi il ne faut pas, selon vous, aller à Menton.
Alors Menton, c'est dangereux, je dirais, de manière relative. C'est dangereux. Mais c'est lié à... Excusez-moi.
C'est Menton qui se venge.
C'est Menton qui me...
Voilà.
C'est lié à l'arrivée de nouvelles espèces invasives. Là-bas, on trouve le moustique tigre, qui est un moustique très urticant par rapport au moustique classique. Donc, effectivement, ça permet de... C'est un nouveau type d'espèce qui risque de gâcher un petit peu l'apéro le soir au bord de la mer. Mais c'est une espèce parmi tant d'autres parce qu'il y a de nouveaux envahisseurs. On trouve notamment des super méduses désormais sur la côte atlantique qu'on appelle les physalies.
Donc pas à Menton.
Pas à Menton.
J'en profite pour les révisions de géographie.
Voilà,
pour
ça c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'est sur la façade atlantique. C'est des méduses avec des filaments qui font 40 à 50 mètres de long, qui sont des
50 mètres de long.
De guirlandes super électrisantes qui vont s'enrouler sur le baigneur. Et donc ça, c'est des espèces qui viennent d'arriver récemment sur nos côtes et qui risquent effectivement de pourrir les vacances de nos chers amis touristes.
Eh bien, on va écouter Patrick Watson, Place You Will Go, les endroits où vous irez, et tout de suite après, on continue à évoquer les bonnes manières de rater ces vacances avec vos témoignages au 01 45 24 7000. To the waves and the shimmer light, she's gonna drag you to the shore. But you don't know who you are, but to me, take it out. You're gonna take it, take it out. Welcome to the city with too many roads. You're not gonna know. Don't be trying to change yourself. Service public sur France Inter, comment rater ses vacances? Nous sommes en compagnie de Jean-Bernard Carrier, qui est auteur de guide de voyage Lonely Planet, de Pascal Gros, Gros le dessinateur, qui publie avec le regretté T-News comment rater ses vacances aux éditions du Chêne, Thomas Laurenceau, qui est rédacteur en chef du magazine 60 millions de consommateurs, et Nicolas Santolaria, qui est journaliste au magazine GQ et qui publie Touriste regarde, où tu poses tes tongs et qui dit notamment du mal du lac de Gérardmer, parce qu'on ne dit pas Gérardmer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un lac où il ne faut pas mettre une tongue. Pourquoi, Nicolas ?
Alors, le lac de Gérardmer, qui est par ailleurs magnifique, c'est une belle destination et j'invite les gens à y aller.
Ah, vous êtes un peu faillot. Quand
un
même.
Petit peu, mais en même temps, c'est le principe du guide j'invite les gens à aller visiter toutes ces belles destinations, mais en même temps, j'explique un petit peu les dangers qu'ils peuvent trouver sur place. Et à Gérardmer, le danger est en l'occurrence explosif, puisque après la Seconde Guerre mondiale, des tonnes de munitions ont été directement déversées dans le lac par quantité astronomique. Donc on peut se retrouver à faire du pédalo au-dessus d'une véritable décharge explosive et donc peut-être se retrouver à être catapulté dans la stratosphère.
Enfin,
si jamais...
Pour l'instant, rassurez-nous, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé à notre réalisateur Olivier Bétard qui s'est immergé dans le lac de Gérardmer et qui est toujours à peu près entier de l'autre côté de la vitre.
Il n'y a pas de méduse. Alors effectivement, il n'y a jamais eu d'accident. Hein. Je rigole, j'exagère un petit peu. Le danger a été sécurisé. Il y a quelques munitions qui ont été retirées par les démineurs. Après, c'est vrai qu'il y a toute une dimension fantasmatique avec ce lac potentiellement explosif. C'est un des dangers parmi tant d'autres qui est lié au passé militaire de la France, puisqu'on trouve aussi, par exemple, à Verdun, des résidus de gaz moutarde dans des endroits qui sont extrêmement contaminés. On trouve aussi des traces du passé nucléaire de la France dans les atolls du Pacifique, comme par exemple à Mururoa. Enfin, tout ça
est
très varié.
Et à la station de métro Alésia, je ne vous raconte même pas, il y a des vestiges également de batailles anciennes. Jean-Bernard Carrier, qu'en pensez-vous, vous qui êtes auteur de guide de voyage Lonely Planet ?
Nous, on a un très bon baromètre dans l'univers des guides de voyage, c'est le courrier des lecteurs. Et généralement, les gens écrivent assez souvent quand ils sont déçus du voyage qu'ils ont fait. Et en fait, le principal critère qui irrite les lecteurs, c'est les hébergements. En fait, le point faible d'un voyage, souvent, les plaintes que l'on reçoit, souvent, tiennent à des hébergements qui correspondent pas à ce que les gens imaginaient, ou alors il y a eu des arnaques sur les hébergements. On croirait que le couchage et le gîte, c'est vraiment l'un des points clés de la réussite et de l'échec d'un voyage.
Des hôtels,
les hôtels, chambres d'hôtes, camping, tout, l'accueil, tout est passé en revue. Et je crois qu'on peut avoir, je dirais, un chiffre à la louche, presque 75% des courriers des lecteurs portent sur des problèmes liés à l'hébergement. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ça qui inquiète les lecteurs.
Mais est-ce qu'on peut dire, Jean-Bernard Carrier, qu'il y a des lieux où tous les hébergements sont pourris ?
Tous les hébergements sont pourris, non.
Beaucoup d'hébergements, je vais essayer de reformuler ma question.
Écoutez, ça dépend de l'infrastructure de certains pays. C'est vrai que, par exemple, dans les pays du Pacifique, on paye, par exemple, cher des hébergements qui correspondent pas au prix qu'on a payé. C'est ce qu'on appelle le rapport qualité-prix.
Par exemple
Par exemple, les Fidji, par exemple, la Polynésie, la Calédonie.
Vous voulez pas vous fâcher, hein, quand même.
Mais c'est des situations que je connais très bien. On paye cher, parfois, un hébergement qui correspond pas ce à quoi on s'attend, en fait.
J'ai cru comprendre, par exemple, que vous n'aimiez pas la Corse.
Ah, la Corse, j'adore, c'est ma région préférée, sauf du 15 juillet au 15 août, parce que là, effectivement, les hébergements sont saturés, on paye presque 3 fois le prix normal de l'année. Donc, il faut vraiment jouer avec la saison, éviter cette période Corse, 15 juillet, 15 août, parce que vous allez multiplier par 3 le prix, et là, effectivement, vous allez être forcément déçu, votre voyage est raté.
Gros, comment rater ces vacances ? C'est donc le livre que vous publiez avec T-News. Un exemple de dessin de ce livre ?
Eh ben écoutez, pensez aux hébergements, là justement, ça m'a rappelé un dessin de T-News où ça pourrait bien se passer en Corse en plus, parce qu'il y a une forêt qui vient de brûler le long de la côte, un hébergement qui est derrière la forêt, il y avait la mer, et le propriétaire explique aux locataires de vacances qui sont au milieu de cette forêt brûlée que certes ça sent un peu le brûlé, mais maintenant vous avez vu sur la mer sans supplément. Donc c'est plus avantageux finalement.
On peut trouver également un autre dessin de T-News où on voit un touriste semble-t-il brûlé par le soleil, qui bronze entre des tombes, avec juste une légende, les plages du débarquement. Thomas Laurenceau, vous êtes rédacteur en chef du magazine 60 millions de consommateurs. Si l'on commence par partir en vacances, c'est bien souvent en achetant un billet d'avion ou un train, comment se faire arnaquer en achetant un billet d'avion? Quelles sont les précautions à prendre?
Eh bien, là, on vient de faire une étude justement sur les achats de billets d'avion en ligne. On s'aperçoit que selon la plateforme que l'on utilise, on peut avoir 30% de différence de prix. Donc, le premier moyen de commencer à rater ses vacances, c'est de ne pas faire attention et d'aller sur un certain nombre de sites qui ne sont pas transparents en matière de prix et qui vont vous rajouter un certain tas de frais. Il y en a un qui est très rigolo quand même, qui est le paiement. On vous donne un tarif peu élevé, mais il faut payer exclusivement avec la carte bancaire Entropay, que personne n'a, dont personne ne dispose. Et à partir du moment où vous êtes quelqu'un normal qui a une Visa ou une Mastercard, vous avez 20 ou 25 euros de plus. Voilà, c'est le genre de choses auxquelles, si on n'y fait pas attention, eh bien, on va commencer déjà à payer trop cher ses vacances.
Y a-t-il des sites internet en matière d'achat de billets de voyage qui sont des sites infréquentables ou des sites sur lesquels vous recevez des plaintes?
Ben écoutez, là, ce mois-ci, on en épingle un qui est BravoFly, parce que franchement, il y a toujours des taxes en plus, des frais de dossier qui s'ajoutent. C'est difficile d'avoir un service client au téléphone. Donc ça fait partie des sites qui ont besoin vraiment de s'améliorer avant qu'on y renvoie les gens.
Nous avons une auditrice au standard, Jacqueline. Jacqueline qui nous appelle de l'Aveyron. L'Aveyron, c'est une bonne destination de vacances d'ailleurs, Jacqueline. N'est-ce pas?
Oui, bonjour. Oui, absolument. Et justement,
vous êtes où en Aveyron?
Comment? Je suis dans le sud-ouest de l'Aveyron, donc limitrophe du Tarn.
Oui. C'est une très belle région. Vous n'avez pas besoin de partir ailleurs en vacances.
Absolument, c'est ce que je disais à vos assistants, et je leur disais que justement pour passer de bonnes vacances, il ne fallait pas chercher à tout prix le moindre coût, parce que ça n'existe pas. Je disais toutes les choses ont un coût, et je lui disais que les labels sont faits pour ça. Moi, j'appartiens au label Gîtes de France, donc c'est une fédération d'associations départementales. Nous avons des contrôles, nous payons des cotisations. Vous parliez de l'hébergement avec la qualité des literies, etc. Donc, entre autres, ça. Dans l'hôtellerie, vous avez d'autres labels, Logis de France. Moi, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire le milieu rural. Et vous avez aussi des labels pour les restaurants, donc les cuisineries françaises. Et tout ça, ce sont des gens qui sont sur place, qui travaillent avec les producteurs du coin, qui offrent du confort aux gens et qui sont heureux d'accueillir les gens. Donc, voilà. Si vous voulez, après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est toujours pareil, on a toujours le choix.
Merci.
De se faire arnaquer ou pas. Voilà.
Merci Jacqueline pour ce commentaire. Jean-Bernard Carrier, vous qui travaillez pour le Lonely Planet, un guide de voyage, que pensez-vous de cette remarque?
Je reste assez sceptique sur la position des labels, parce qu'effectivement, je les connais tous, ces labels-là. Et souvent, des prestations qui sont référencées dans ces labels-là de manière très positive ne correspondent pas forcément à ce que les lecteurs attendent. Donc, les labels, c'est le respect de normes. Ça ne veut pas dire que la prestation, elle est bien. Vous pouvez être en bord d'autoroute et avoir et bénéficier d'un label. Mais vous êtes très mal placé. Ça, c'est pas écrit dans le label. Donc, je me méfie beaucoup des labels parce que pour moi, ils ne sont pas très représentatifs de ce que nous, auteurs de guide, on recherche.
Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'attention peut-être portée au label parce qu'il y a de plus en plus de notations qui sont données en ligne. On a toute une série de sites, TripAdvisor, Booking, où on trouve des commentaires d'internautes. Qu'en pensez-vous? Alors, ça vous retire du boulot à vous, guide de voyage. Ça permet aussi de se faire, en tout cas, une idée précise de tel ou tel lieu.
En fait, il y a eu un engouement sur ces sites internet, ces plateformes d'échange communautaires. En fait, on en revient complètement parce que c'est de l'information assez commerciale. Derrière, il y a TripAdvisor ou Booking qui essayent de vendre quelque chose aux prestataires. Il y a souvent des commentaires qui sont biaisés, malveillants.
Il y avait aussi beaucoup de guides de voyage qui essayaient de vendre jadis Thomas Laurenceau.
Il n'y a pas de publicité dans nos guides de voyage. Donc, moi, je suis complètement indépendant. Je n'ai rien à vendre, en fait, aux prestataires. C'est ça la grosse différence.
Moi, je suis pas convaincu que ce soit le média qui pose problème. Il peut y avoir des bons site internet, il peut y avoir aussi des bons forums d'échange. C'est vrai qu'il faut vraiment se méfier des avis d'utilisateurs parce qu'il existe une norme mais elle est peu appliquée, donc on ne sait jamais si ce n'est pas le professionnel lui-même qui a mis l'avis. Donc là où je vous rejoins, c'est qu'il faut préparer son voyage, c'est sûr. Il faut faire attention, pas croire n'importe qui, mais je suis prudent. Alors pour les labels, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on aura un peu plus de recours. Mais c'est vrai que ça fait pas l'amabilité de la personne qui vous reçoit, qui compte beaucoup aussi.
Gros un dessin issu de votre livre « Comment rater ses vacances ».
Non, je pensais, oui, par rapport au coup de fil de Madame tout à l'heure, également un dessin de Tinius qui s'intitule « Vacances de rigueur », parce que maintenant, on n'a plus tellement forcément les moyens de partir. Et on y voit un bus dans une banlieue où le type dit « On va jusqu'au terminus et on plante la tente ». Ce qui est encore le meilleur moyen de partir. En plus, on connaît la région. Et peut-être que ça manque un peu, finalement, des guides pour aller voilà, à 200 mètres de chez soi ou à 2 km. On devrait peut-être envisager un Lonely Planet là-dessus, ou un Lonely Planet de chez soi, peut-être même de son appartement.
C'est une idée que je vais proposer, effectivement.
Ça serait bien d'aller visiter son tiroir à chaussettes, moi, comme ça, ouvert de 8h à 19h, on pourrait faire un truc de ce genre-là.
Isabelle est au standard, elle nous appelle de Menton, je suis juste à côté de Nicolas Santolaria. Isabelle, qu'est-ce qu'on lui fait? Puisqu'il a dit du mal de Menton.
Allô?
Oui, on vous écoute, Isabelle.
Oui, voilà, je voulais protester contre ce qui a été dit tout à l'heure.
Évidemment.
Contre, la ville de Menton qui serait devenue une zone tropicale infestée de moustiques tigres. C'est vrai que nous avons des moustiques tigres, contrairement à ce qui pouvait se passer il y a une dizaine d'années, mais je tenais à dire que quand même, il y a des mesures qui ont été prises pour que leur nombre diminue et qu'on peut parfaitement vivre très bien à Menton sans passer son temps à lutter contre les moustiques tigres. Là, je vous appelle de ma terrasse, je suis au soleil, il fait un temps magnifique et il n'y a pas de moustiques.
Ah, donc, pour aller dans le sens d'Isabelle, je dirais qu'en plus,
Isabelle.
Menton étant la ville du citron, ils ont tout le matériel nécessaire sur place pour fabriquer du répulsif à moustiques efficace.
En tout cas, vous êtes clairement fâché avec les Mentonais. Maintenant, vous allez vous fâcher avec les Biarrots, car vous déconseillez à tous les touristes d'aller sur les plages de Biarritz. Pourquoi ?
Je leur déconseille d'y aller les lendemains de fortes pluies, parce que le système d'assainissement des eaux de la ville de Biarritz étant relativement vétuste, il arrive qu'il déborde et que donc il y ait des déversements d'égouts directement sur la grande plage de Biarritz, ce qui peut induire par la suite chez les baigneurs des problèmes notamment ORL, par exemple des otites, etc. Il y a même une signalétique qui a été mise en place localement avec un drapeau mauve pour éviter aux baigneurs d'aller barboter là-dedans. Donc effectivement, c'est pas... j'invite pas les gens à ne plus aller à Biarritz, mais au contraire à faire attention
à ne pas s'y baigner. Non, c'est juste ça.
À faire attention du jour qu'ils sélectionnent pour la baignade. Voilà.
Et ça n'existe qu'à Biarritz, ce genre de choses.
Non, il y en a ailleurs. Il y en a par exemple à Marseille avec la plage de Luvonne. Il y en a dans plusieurs endroits. Donc effectivement, bon, je m'attaque à Biarritz.
Jean-Bernard Carrier.
Ce que dit Nicolas me fait penser aussi à l'importance que joue le rôle du climat dans la réussite ou l'échec, évidemment, d'un voyage. Quand vous lisez par exemple les brochures ou les informations des guides, des offices de tourisme, là je parle, vous avez l'impression qu'il fait beau 365 jours par an dans la destination de vos rêves. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et l'une des principales caractéristiques qui peut provoquer une déception dans un voyage, c'est d'aller en Asie, en période de mousson, et les agents de voyage vous proposent souvent ces destinations-là, parce qu'elles sont pas chères à cette saison-là, et vous savez pas du tout ce que c'est qu'une mousson. Et là, vous avez pendant 15 jours, il n'y a pas une fenêtre de soleil pendant votre séjour, alors que vous attendiez une destination tropicale de rêve. Ça arrive très fréquemment.
Gros veut réagir.
Disons par rapport à tout ce que j'entends là, moi je trouve qu'il y a quand même la principale méthode pour rater ses vacances, c'est son propre comportement. Parce qu'on peut aller dans l'endroit le plus paradisiaque du monde, la plupart du temps on arrive très bien à rater nos vacances, quel que soit le climat, quel que soit l'endroit, quel que soit l'hébergement, quel que soit la préparation, qu'elle soit sur internet, qu'elle soit avec un guide papier. Si on part avec un guide papier au lieu de visiter le pays, on passe le temps à lire le guide papier. Si on passe sur internet, on lit 2500 commentaires différents.
Et c'est vrai qu'il y a plein de bonnes... Il y a plein de bonnes recettes. Par exemple, Lily dit qu'une bonne manière de rater ses vacances, c'est de partir avec son ex chez sa mère, ce qui est bon, à la fois quand même une recette assez baroque. Thomas Laurenceau, qu'on soit avec son ex chez sa mère ou pas. Plages où il fait bon ne pas se baigner, puisqu'on a évoqué le cas de Biarritz, qui, d'après Nicolas Santolaria, est une plage qui pourrait à intervalles réguliers être infestée de bactéries Escherichia coli. C'est compliqué à dire, mais j'ai à peu près réussi à prononcer le nom de ces bactéries. D'autres exemples de plages?
Il y en a beaucoup. Partout où il y a de la concentration humaine, c'est-à-dire partout où il y a des endroits de vacances, il y a des problèmes sanitaires.
Eh oui, partout où il y a des êtres humains, c'est dégueulasse.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que la tourista, c'est pas seulement au bout du monde. Hein, on peut, on a cité...
À Menton, notamment, par exemple.
Non, mais c'est partout où il y a des vacanciers concentrés.
Marqué à la Hague, il n'y a pas d'êtres humains, et c'est pas pour autant que les déchets radioactifs.
On avait fait un papier il y a quelques mois sur Serge Chevalier, son Club Med et sa gastro, parce que il y a le Club Med de Serge Chevalier est connu pour avoir une gastro récurrente depuis 15 ans. Donc ça existe
Comment on fait pour avoir une gastro récurrente?
On ne sait pas, justement.
Ah, c'était un mystère, d'accord. C'est dans la France mystérieuse, le Club Med de Serre Chevalier. Oui, et... Gros, un avis à ce sujet, oui, parce que
il y a des Saint-Tinius également sur la Hague, d'un type de, dans l'eau de la mer, face à la Hague, face à la centrale nucléaire, qui dit au début elle est chaude, mais après elle est bonne.
On va écouter Tricky Hell is Around the Corner, et tout de suite après, on va continuer à évoquer les endroits les plus pourris pour partir en vacances avec vos vraies mauvaises idées que vous pouvez nous donner au 01 45 24 7000. I stay firm for a soil, little rock and falls and they juicy. Trust me, just be stitchy. Hell is round the corner where I shout. Is a schism, the living out the start. If you believe or deceive. Common sense shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. To judge me from my labor, the bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the evenings ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Little rock and falls for the juices. Confused by different memories, details of Asian remedies, conversations of what should become of enemies. My brain thinks bomb like, so I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for a soil. Little rock and falls. Just be still see. Hell is round the corner where I shelter. Divisions and schisms. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you wanna see. Let me take you down the corridor. My brain thinks bomb like. Bomb like my brain thinks. Bomb like, bomb like, bomb like my brain thinks. Bomb like. Beware of our appetite. Service public sur France Inter, comment réussir à rater ses vacances? Les recettes de nos spécialistes, Nicolas Santolaria qui publie « Touriste, regarde où tu poses tes tongs », un livre de dessin de Tinius. Et gros, comment rater ses vacances? Thomas Laurenceau de 60 millions de consommateurs et Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Et nous avons David qui nous appelle de Corse. Il appelle de Corse pour se venger suite aux propos que Jean-Bernard Carrier a tenus sur la Corse. Bonjour David.
Bonjour.
Nous vous écoutons. Je sais que vous êtes en colère.
Non, j'appelle pas pour me venger. Déjà.
Non, mais vous pouvez. Hein,
je veux dire. Complément d'information sur le fait que la Corse s'échère du 15 juillet au 15 août. C'est cher en Corse, mais comme partout ailleurs pour les lieux touristiques. Et deux, l'Office de tourisme en Corse en général déploie de monstrueux d'énergie, une énergie énorme pour pouvoir justement développer du tourisme à l'extérieur de ces dates-là. Donc oui, chacun fait des efforts pour ça. Ensuite, la meilleure façon de rater ses vacances, c'est de partir avec un guide justement. Parce que contrairement à ce que disait votre interlocuteur, les guides ne sont pas mis à jour et c'est facile de contrôler en prenant un guide au hasard, que ce soit le sien ou les autres. Il y en a tant d'autres, on ne va pas les nommer. Et de se rendre dans
Si vous pouvez nommer qui vous voulez.
Oui, non, mais bon, on va en nommer plusieurs, parce qu'il faut en nommer plusieurs services publics. Il y a le Planète, le Petit Futé, le Routard. Hein, voilà, comme ça, on a fait un peu le.
Et vous avez trouvé des problèmes de mise à jour dans tous ces sites?
Bien sûr. Vous prenez n'importe lequel de celui-ci, même aujourd'hui. J'engage ce monsieur à venir là pendant cette saison.
Et de se rendre compte qu'il y a Nous venons.
Et de constater que ce qu'il y a dans le guide, que ce soit les hôtels, les restaurants, les boutiques, ça n'existe, certaines n'existent plus, certaines ont changé de propriétaire, certaines ont une activité différente. Donc, c'est pas à jour. Et secondo, même si c'était à jour, et c'est forcément impossible, il y a des activités qui changent tous les trimestres. Même si c'était à jour, qui peut se dire, je vais aller dormir dans cet hôtel, c'est bien et c'est pas bien. Je vais aller manger dans ce restaurant, c'est bien ou c'est pas bien. C'est un avis subjectif. C'est comme si moi je disais ce vin il est bon et ce vin il est pas bon.
Non.
C'est moi qui décide. C'est mon avis.
Non,
c'est
je suis pas d'accord, monsieur. Je suis pas d'accord avec vous.
Jean-Bernard Carrienne n'est pas d'accord.
C'est pas un avis subjectif parce que moi je suis un professionnel. Ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai vu des milliers d'hébergements dans tous les pays du monde. J'ai vu actuellement 106 pays. La Corse, ça fait 15 fois que j'y vais. Donc j'ai quand même un recul que beaucoup de gens n'ont pas. C'est aussi pour ça qu'on m'emploie. Donc l'avis que j'ai, il est pas parfait. C'est pas infaillible un guide de voyage. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis qu'en revanche, c'est un avis d'expert qui est fondé, voilà.
Le problème, c'est que les experts dans tout et n'importe quoi, tout le monde se dit expert. Vous vous dites que vous venez régulièrement, les gens y vivent ici, en Corse. Et il est facile de constater que souvent, il y a des choses, et même, on va dire, une grosse majorité des choses qui sont dites dans les guides sont fausses. Quand des gens se vengent sur quelque chose, sur Internet ou sur des guides, parce qu'ils ont été déçus d'un endroit pour faire du mal, chacun a son petit pouvoir pour dire, eh ben moi je vais décider que là c'est bien ou là c'est pas bien.
Et on ne décide
qui peut
rien,
dire aujourd'hui,
monsieur.
Cet hôtel,
on décide
bien,
rien.
Ce restaurant, il est pas bien. Qui peut le dire aujourd'hui?
On ne décide rien. On va sur place, on teste nous-mêmes et on compare par rapport aux autres prestations qu'on trouve sur place. Donc c'est pas une hyper subjectivité comme vous semblez vouloir le dire.
Merci en tout cas, David, pour ce commentaire. Thomas, Laurent, pour 60 millions de consommateurs.
Du point de vue du consommateur, les guides sont parfois victimes de leur succès aussi. Hein. Tout le monde a vécu ça. Vous avez une adresse dans le guide du Routard et vous trouvez 42 Français dans la salle et c'est plus
absolument.
Le petit truc sympa.
Amsterdam, avec le guide du Routard, c'est Paris, Empire. On peut voir tous les endroits où vont les Français. Gros, une mauvaise idée à commenter.
Non, je trouvais juste que c'était l'avantage de la gastro de tout à l'heure. C'est comment, c'est parfaitement objectif. On est sûr d'avoir un avis scientifique à la limite par rapport à la situation.
Effectivement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour rater ses vacances aussi. Des méthodes infaillibles, il est toujours difficile d'en donner. En revanche, on peut évoquer de vraies bonnes façons de rater ses vacances. Par exemple, d'aller dans une croisière qui sur le papier est une croisière de rêve. La plage, les palmiers, le Pacifique, Tahiti, on y revient, et un bateau. Et puis au final, ça devient un véritable cauchemar. C'est ce qu'a vécu Sandrine Mercier. Sandrine Mercier, rédactrice en chef du journal Aller-Retour, un magazine de voyage. Sandrine Mercier qui, pendant une traversée en catamaran, a passé plusieurs jours sans dormir. Elle le raconte au micro de Thomas Chauvineau.
Dans mon rêve aussi, je voulais faire du bateau. Je suis montagnarde, donc ça m'avait toujours chatouillé, mais j'avais jamais osé même traverser le lac d'Annecy. Donc je suis arrivée à Tahiti. Ah,
déjà, c'est le paradis.
Ouais, mais à la capitainerie, c'était moins le paradis, puisqu'ils m'ont dit que c'était la saison des cyclones qui commençait et qu'en gros, il n'y avait aucun bateau qui quittait le port. Mais j'avais rencontré un Américain qui avait fabriqué son catamaran. Il me dit, mais écoute, moi, je t'emmène, moi, je dois aller à Hawaï, et on va traverser tout le Pacifique. 30 jours sans voir les côtes, sans voir la terre, sans voir personne d'autre. Mais c'était la seule possibilité que j'avais, et j'avais tellement envie de le faire. Et au petit matin, on est parti très tôt avant le lever du soleil et on a quitté le port de Papeete. Au bout de 3-4 jours, on a cassé le pilote automatique. Donc ça commençait un peu à l'inquiéter, puisqu'on en avait encore pour 25 jours. Ça voulait dire qu'il fallait toujours être à la barre. On pouvait plus, on n'était que deux, donc il fallait sans arrêt se relayer. 4 heures lui, 4 heures moi. Et donc au bout d'une semaine, il était vraiment de plus en plus fatigué. Moi, j'étais de plus en plus souvent à la barre, mais c'était peut-être 15 heures, 18 heures par jour. Tout
à
le temps à tenir la barre sous le cagnard. Et puis un jour, il n'a plus pu se lever. il a une sorte de boule énorme qui lui est venue en bas du ventre. Et moi, j'étais là au milieu du Pacifique et là, je devais tout faire. Mais ça m'a, j'entendais des voix. Enfin, la nuit, quand je barrais, j'entendais des voix. J'entendais ma mère qui m'appelait, qui me disait « rentre ». Et alors, sur la carte, quand même, j'avais vu que les Marquises, c'était pas très loin. Et on a fait demi-tour. Et on est arrivé au bout de 14 jours de navigation. Mais j'ai vraiment eu des mauvais flashs, quoi. Je voyais des images, je voyais des lumières, des bateaux passer. Je rêvais que j'allais mettre le feu au bateau pour qu'on vienne nous chercher. Par contre, il y avait une très belle image quand je suis arrivée sur les Marquises. Je me souviens tout le temps, c'était au lever du matin. J'étais à la barre, comme d'habitude, après avoir passé toute la nuit sous les étoiles. Et il y a une remonta énorme qui était venue nager à côté du bateau. Et au même moment de cette raie, j'ai vu la silhouette un peu de l'île, c'était Nuku'iwa. Moi, la première chose que j'ai faite, j'ai plongé dans l'eau, j'ai nagé pour marcher sur la terre ferme. Et là, un mal de terre, je ne pouvais plus. Après 15 jours, j'ai découvert le mal de terre. J'avais mal partout, j'avais envie de vomir. Je me suis allongée comme ça en croix sur le sable en me disant « ça y est, je suis vivante, je suis revenue à la terre ».
Le reportage de Thomas Chauvineau, un reportage qui fait réagir Thomas Laurenceau pour 60 millions de consommateurs.
Oui, enfin, nous, on a beaucoup de réactions sur les croisières plus industrielles, hein, ou pas de ce type-là.
Costa Croisière.
De ce genre-là, oui.
Costa Croisière a eu deux, là, trois bricoles.
Et là, le problème, c'est qu'on peut pas s'échapper, quoi. Et donc, quand ça commence à mal se passer, ça va vraiment mal. Donc,
il y a les canaux de sauvetage, mais souvent, il y en a pas assez.
On a des témoignages, par exemple, une croisière sur le Nil, où la personne raconte que pendant ils ont navigué que la nuit. Parce qu'ils étaient en retard, donc ils n'ont rien vu du Nil, parce que c'était toujours tout noir. Hein. Il y a d'autres, et ensuite, il y a énormément de problèmes sur les coûts. Hein, les coûts, les pourboires obligatoires. Alors, on peut vous dire, c'est 10 euros par jour de pourboires obligatoires. Si vous êtes en famille, 4 personnes, ça chiffre vite. Les excursions pour mettre le pied au sol, il va falloir payer plus cher aussi. Et évidemment, l'excursion vous est vendue.
Sinon, on vous maintient prisonnier.
Et l'excursion vous est vendue 100 euros, alors que si vous la négociez en ayant mis le pied au sol d'abord, elle vous coûte 15 euros. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours. Il y a des croisières qui se passent bien, mais c'est vrai que moi aussi j'ai le problème, c'est que 100% des gens qui m'écrivent sont des gens qui ne sont pas contents, donc j'ai une vision déformée, mais ce qu'on reçoit montre qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Gros indécin.
Et oui, parce que à propos de croisière, on a imaginé un peu le futur des vacances et à quel point l'avenir est bouché. De toute façon, c'est peine perdue. Et une sorte de croisière dans l'espace, un dessin sur le tourisme spatial qui viendra bien un jour quand il coûtera plus que 3 ou 4 millions de dollars par personne et qui représente une famille, enfin un couple avec leurs mômes qui sont en orbite autour de la Terre. Vraiment, c'est magnifique. Il y a la planète en dessous d'eux, il y a la station spatiale internationale en dessous d'eux, tout est magnifique. Et le môme demande à ses parents, maman, est-ce que je peux jouer aux jeux vidéo? Parce que, bien évidemment, de toute façon, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, sur la croisière, ça va pas changer grand-chose de ce point de vue, au moins.
On écoute Manu Chao, mais gustas tu et vos dernières mauvaises idées de départ en vacances, tout de suite après ça.
De la noche en San Salvador, en El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar.
Thank you. la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Service public sur France Inter, une émission importante sur un sujet important, comment rater ses vacances, comment réussir à les rater avec des spécialistes autour de la table. Thomas Laurenceau de 60 millions de consommateurs, le dessinateur gros, qui publie avec T-News comment rater ses vacances. Également un spécialiste des guides de vacances, Jean-Bernard Carrier pour le Nid Planète. Et enfin Nicolas Santolaria, journaliste chez GQ, qui publie Touriste, regarde où tu poses tes tongs, avec un conseil, ne surtout pas aller dans les calanques de Marseille. Pourquoi, Nicolas Santolaria?
Alors les calanques de Marseille, c'est vrai que c'est magnifique visuellement, mais on déverse des boues rouges à l'arsenic depuis plusieurs décennies dans une fosse sous-marine qui se trouve au large. Tout ça, c'est le résidu d'un traitement industriel d'une usine locale. Donc, effectivement, on peut se demander si la bouillabaisse marseillaise n'a pas un petit arrière-goût et s'il n'est pas finalement dangereux de s'y baigner de manière récurrente. Donc, bon, voilà, je pense que pour les gens qui y vont comme ça de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais ça pose en tout cas des questions sur.
Pour ceux qui passent l'année dans l'eau au milieu des boues rouges, évidemment, il peut y avoir des séquelles.
Effectivement. De plus, les boues rouges, elles sont déversées dans une faille qui est un petit peu le poumon de l'écosystème marin, là où il y a tous les poissons. Donc, c'est aussi, ça raconte un petit peu notre rapport déviant à l'environnement et à nos propres ressources.
Eh oui, c'est notre rapport déviant. On peut se baigner dans l'eau déviant, évidemment. C'est au moins une manière de savoir que l'eau est propre. Nous avons un auditeur, Jacques, au téléphone. Bonjour, Jacques.
Oui, bonjour.
Nous écoutons votre question ou votre témoignage, Jacques.
C'était un témoignage par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la Hague.
Je me souviens plus de ce que j'ai dit.
Pardon ?
Oui, je m'en souviens, Jacques. J'ai dit effectivement que se baigner à côté de l'usine de retraitement de déchets nucléaires, ça pouvait éventuellement causer ou exposer le nageur à quelques risques.
Peut-être. Mais la région est tellement belle que, effectivement, cette verrue qu'il y a sur Olag est pas très jolie. Hein. Mais bizarrement, ils ont mis ça dans une région qui est magnifique. Hein.
Donc ça vaut le coup d'être irradié.
Voilà. Pardon ?
Ça vaut le coup d'être irradié, d'après vous.
Non, effectivement.
Je ne sais pas.
Je ne connais pas exactement les problèmes qu'il y a au niveau de l'irradiation. Mais. Alors à ce moment-là, on ne se baigne pas et on vient voir la région.
Ou alors on part avec Un ami, une amie et un conteur Gégère, Nicolas Santolaria, votre avis sur le fait de se baigner à la Hague?
C'est vrai que j'en parle dans le guide. Effectivement, c'est une région magnifique où il y a notamment le plus petit port de France, le port Racine. Il y a des plages sauvages comme il n'y en a quasiment nulle part ailleurs. Donc c'est une région très préservée. Après, il y a des études qui sont sorties qui ont montré qu'il pouvait y avoir des taux de leucémie plus élevés dans ce type de secteur. Alors, comme souvent dans ce genre de problème, il y a les études contradictoires qui sont ensuite publiées par l'usine de retraitement, etc. Donc c'est un débat difficile à trancher, mais toujours est-il qu'on se dit, tiens, il y a une sorte de supra-égout radioactif avec une usine qui balance directement dans l'eau des effluents radioactifs. Donc ça pose tout de même question.
Bob sur Internet nous dit, il faut savoir décoder les guides. Hôtel où les jeunes filles ne seront pas dérangées, ça signifie qu'on est tombé sur un hôtel catholique. C'est vrai, il y a ce type de commentaires dans les guides Lonely Planet?
C'est plus des commentaires qu'on fait maintenant. Ça a peut-être existé il y a 10 ou 15 ans, mais non, ça, c'est des commentaires qui n'ont pas cours actuellement.
Alors, comment trouver un hôtel catholique?
Un hôtel catholique, je ne sais pas très bien ce que c'est. Il doit y avoir peut-être des missions.
Bob apparemment le sait, puisqu'il pose la question.
Je pense qu'il y a peut-être certains endroits dans le monde où il y a encore des missions catholiques qui font de l'accueil, notamment en Afrique, qui font de l'accueil de touristes, oui, tout à fait, dans ces régions-là.
Nous avons Martine au standard. Bonjour, Martine.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Martine. Nous écoutons votre question ou votre témoignage.
Alors, c'est un témoignage, c'est juste pour dire que avant de partir à l'étranger, là, en l'occurrence, nous, c'était en Écosse, c'est de bien regarder que la pièce d'identité ou le passeport soit valide. À savoir qu'en France, la date d'expiration figurant sur la pièce d'identité est prolongée de 5 ans. Sauf que ça ne marche que en France. Et si on veut aller à l'étranger avec, on est refoulé. Donc nous, on a acheté nos billets d'avion par le biais d'une agence pour être sûr de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur. 3 jours avant de partir, l'agence nous a appelé pour nous demander de faire des photocopies de notre pièce d'identité. Et là, on a appris qu'une des pièces d'identité n'était pas à jour et qu'on ne pouvait pas partir. Voilà, donc on a raté nos vacances.
Bon, ça c'est une bonne manière effectivement de rater ses vacances, Thomas.
Et c'est un vrai problème parce que Martine était dans son droit au départ, hein, puisque l'idée c'est que dans la simplification administrative, on avait eu cette bonne idée de prolonger de 5 ans la date de validité des cartes d'identité. Malheureusement, on n'a pas dit à tous les douaniers, et il y a des gens qui se sont fait refouler à la frontière, et ça continue parce que ça date depuis le 1er janvier 2014.
Je croyais que l'administration donnait un document expliquant aux douaniers étrangers, aux douaniers mal comprenants, qu'il y avait
Écoutez, ça fait un an et demi que ça dure, et là j'ai vérifié sur notre site internet hier, parce que je me disais que la question serait peut-être posée, il y a encore des témoignages. Hein, donc le problème des papiers d'identité, il est réel. On a aussi eu récemment des problèmes avec des gens qui voulaient aller au Maroc. Normalement, pour aller au Maroc, il faut un passeport, mais dans certains cas, on tolère la carte d'identité si on est en groupe de plus de 8 personnes, et parfois, on se fait refouler quand même. Donc la difficulté, c'est qu'on est parfois mal renseigné, y compris par l'agence de voyage, laquelle, pourtant, a un devoir de conseil, et là, on pourrait la mettre, elle est en faute si elle renseigne mal.
C'est vrai, elle est en faute? C'est-à-dire que si on a ce type de problème...
Si vous avez souscrit le voyage par l'intermédiaire d'une agence de voyage et qu'elle vous a mal renseigné là-dessus, oui, elle n'a pas rempli son devoir de conseil.
Non, parce que généralement, lorsqu'on achète un voyage, on demande rarement des conseils à l'agence de voyage sur la validité de sa pièce d'identité.
Eh bien, ça fait partie des choses qu'il faut faire en amont.
Il y a beaucoup de choses à faire en amont, Jean-Bernard.
Je dirais que c'est typiquement le genre d'information qu'on trouve dans un bon guide de voyage. Les formalités, les processus pour entrer dans un pays. Nous, on a des rubriques dédiées pour ça dans nos guides Lonely Planet. Donc, c'est vraiment une information capitale qu'on doit trouver dans les guides.
Gros, un dernier dessin.
Alors, j'en avais deux. Une petite destination, simplement, qui est valable pour tout le monde. C'est juste un lieu qui s'appelle le Ravin des touristes perdus par leur GPS, et qui est un lieu assez fréquenté. Et puis, un dernier truc, c'était sur le tourisme à la ferme, qu'on n'a pas fait beaucoup. Et c'est un dessin de T-News sur les vacances en vogue, le tourisme à la ferme. Et on y voit le petit Jésus dans la crèche qui explique que c'est très ancien, cette forme de tourisme.
Il nous reste très peu de temps, mais suffisamment de temps, malgré tout, pour vous demander, pour demander à chacun d'entre vous, où est-ce que vous allez rater vos vacances cette année, Nicolas Santolaria?
Alors, moi, je vais rater mes vacances en Lituanie, puisque c'est là-bas que se trouvent mes beaux-parents. Je voulais dire également que je trouve intéressant, justement, de rater ces vacances, vu que toute l'année, on baigne dans une sorte d'injonction à réussir sa vie. Donc, rater ces vacances, c'est une forme de décontraction assez salutaire qui fait partie des charmes de l'été.
Et donc, vous incitez inciter nos auditeurs à les rater, Jean-Bernard Carrier, pour le guide Lonely Planet. Vous allez rater
entre deux voyages aux antipodes, j'irai rater mes vacances dans ma région d'origine, c'est la Lorraine, et à laquelle je suis resté très attaché.
Donc, pas loin du lac de Gérardmer aussi, vous allez pouvoir vous y baigner gros. Vous les ratez où, vos vacances?
Moi, je vais en rater toute une partie dans le Lot-et-Garonne et une partie à Paris, mais je rate mes vacances où que je sois, en fait, quel que soit le lieu.
C'est un problème existentiel, c'est encore autre chose.
Je remène tout avec moi, il n'y a pas de souci.
Et enfin, Thomas Laurenceau.
Je suis assez d'accord avec Nicolas, c'est rater ses vacances, ça fait des souvenirs quand même, donc c'est intéressant. Moi, je vais les rater en Auvergne. Normalement, j'arrive bien à les rater là.
Bon ratage.
Ce qui fait donc effectivement plusieurs possibilités. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Tinius et Gros. Comment rater ses vacances aux éditions Duchesne et Nicolas Santolaria. Touriste, regarde où tu poses tes tongs.